Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 24, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, nous allons commencer directement par la revue de presse.
Transculture, les communs, une alternative à la propriété ou une propriété alternative ? Un article de la rédaction.
Qui regroupe, parce que c'est France Culture, différentes conférences et bouts de conférences. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des sujets hyper innovants et à la mode.
Lemonde.fr, logiciel libre et école à distance, la sortie de la suite apps.education précipitée par le confinement. Un article de Bastien Lyon.
Donc ça reparle d'un sujet qu'on a déjà abordé et ça met en avant apps.education, un site qu'on espère conserver avec le temps parce que utiliser des logiciels libres pendant le déconfinement mais pendant aussi le reste de l'année, ça peut paraître intéressant.
Alors il y a des écoles où c'est pas utilisé, des profs qui ne le connaissent pas.
C'est dommage.
Donc n'hésitez pas à en parler, à solliciter les enseignants de vos enfants, etc. pour que ça se diffuse.
Usinedigital.fr. Le reproche-t-on au Health Data Hub attaqué devant le Conseil d'État ? Un article d'Alice Vittard.
Y a plein de trucs qu'on reproche au Health Data Hub parce que ça nous embête que les données médicales des citoyens français soient envoyées notamment à Microsoft aux États-Unis. Ça nous embête et on sait que nécessairement avec leurs lois, ils auront le droit d'y accéder.
Voilà, on rappelle que la santé et la banque sont annoncées comme étant les nouveaux Eldorado des GAFAM là, dans les années à venir. Donc c'est doublement inquiétant.
Le Mag IT, visioconférence sécurisée, les options françaises ou open source. Un article de la rédaction.
Bon, on a déjà abordé plein de fois le sujet. La visioconférence, ça marche bien par le logiciel libre. La preuve, on est en train de s'enregistrer sur Big Blue Button.
ZDNet France, les vulnérabilités des projets open source populaires ont doublé en 2019. Un article de Catalin Sipanu.
Alors c'est une liste de vulnérabilités, il y en a des dizaines. C'est classé par logiciel. En premier, malheureusement, c'est la base de données PostgreSQL, que moi personnellement j'adore. Mais bon, ça n'empêche, il faut les utiliser. Et des vulnérabilités qui apparaissent, ça veut dire aussi qu'elles vont rapidement disparaître, parce qu'on est au courant qu'elles sont là, et donc les développeurs peuvent se lancer dessus. C'est un peu l'avantage du modèle.
C'est peut-être aussi que ça a été testé. Là où on n'a rien qui sort, c'est peut-être aussi que personne ne regarde. Pour le sujet de la semaine, j'avais proposé qu'on parte d'un article de Next Impact, très très bon article. On va élargir un petit peu pour ne pas juste les plagier. Mais ils ont sorti un article qu'ils ont appelé « Les poupées russes de la désinformation à travers des médias alternatifs français » qui relaie le travail d'une association belge pour essayer de comprendre les mécanismes de la politique de désinformation de la Russie. C'est un sujet qu'on avait un petit peu évoqué la semaine dernière quand on a parlé de souveraineté. Du coup, je trouvais que c'était pas mal. Et moi, j'ai toujours eu, au-delà de cette question purement russe, cette question qui me taraude de savoir quelle est l'ampleur des gens qui vont essayer de faire changer les opinions, manipuler les idées, etc. sur Internet, parce que ça existe, et je pense que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut le penser.
On avait déjà, même dans la revue de presse, on avait parlé de sites Internet un peu fantômes. D'ailleurs, Manu, je crois que tu avais récupéré des articles de chez eux à une époque, mais on ne savait pas trop d'où ça sortait, en fait, et en commençant à creuser, c'est vrai que c'est assez tentaculaire, et on ne comprend pas vraiment le véritable but de ces choses-là. On sait aussi récemment, il y a des agences de communication qui se sont fait avoir à manipuler Wikipédia en essayant d'éditer les articles pour les positiver un petit peu, essayer de faire placer un peu de communication pour de la part de politiques, d'entreprises ou autres, et pas forcément très bien cotées.
On a entendu parler le cas de Laetitia Avia, la députée, qui très récemment, il y a quelques semaines, ses anciens assistants parlementaires ont expliqué qu'elle leur avait donné pour ordre d'effacer les informations compromettantes, parce qu'elle a quelques petites affaires aux fesses de comportement pour soigner sa réputation et qu'ils avaient fait du nettoyage sur Wikipédia, je crois, sans succès. Mais ça peut être divers et varié.
Mais après, il n'y a pas seulement les modifications d'informations, ça peut aussi être juste de glisser une photo pour placer un produit, par exemple. C'est déjà arrivé qu'il y ait des pages Wikipédia où il y ait un agent, par exemple, je crois que c'était Quechua à l'époque, qui avait mis une photo justement d'une personne qui faisait du sport dans une montagne pour justement mettre en avant le produit. Ça s'est pas vu tout de suite, mais quand ça s'est vu, par contre, ils se sont fait taper très fort sur les doigts.
Alors, ouais, et le web, c'est pas que Wikipédia. Alors, on comprend assez facilement cette démarche commerciale. Et sur les sites bizarres dont on avait parlé il y a quelques mois, là, qui ressortaient dans la revue de presse de Manu,
des sites fantômes,
qui étaient manifestement des sites générés automatiquement, on pouvait facilement imaginer que c'était quelque chose pour générer de la publicité et en gros faire des sites à l'appel en se disant on gagnera de l'argent. Dans le même genre, si on veut acheter du matériel et qu'on cherche des tests, il existe des tonnes de sites sur Internet qui vont te faire le top 10 de tel type de matériel. Ils vont prendre du matos qui existe, ils le mettent dans un ordre, on ne sait pas pourquoi, et par contre, il y a des liens Amazon derrière, et on imagine qu'ils gagnent à chaque fois que quelqu'un clique dessus. Mais là, on parle plus de cette question de désinformation, pas uniquement de gagner de l'argent. Alors, ça peut être complètement lié, hein, puisqu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi pour gagner de l'argent.
Mais là, ça a aussi vocation politique. Hein. C'est les Russes en particulier qui essayent de louvoyer un peu pour placer leur pion et orienter les politiques étrangères. Il y a déjà eu le cas avec Clinton et autres qui avaient quand même bien changé les élections aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui de cerner exactement l'ampleur du problème et de voir qu'est-ce qui relève du fantasme et qu'est-ce qui relève vraiment de la stratégie de manipulation de la part de puissances étrangères.
Alors là, dans l'article, il remonte une ONG bruxelloise qui s'appelle EU Disinfolab. Et eux auraient essayé justement de retrouver un petit peu ce qui se passe et de remonter des informations fiables, d'après ce qu'ils disent. Et ils ont fait un rapport d'une soixantaine de pages qui essaierait d'expliquer un petit peu ce réseau flou de désinformation ou de contrôle de l'information ou de manipulation en général. Et effectivement, hein, ils ont l'air de mettre en avant que c'est la Russie qui essentiellement fait ça, pas que.
Le travail d'enquête est compliqué, ça se réfugie derrière des sociétés qui sont des sociétés écrans, des prête-noms, des choses comme ça, et même eux l'ont avoué dans l'article qu'ils ne peuvent pas publier toutes les données qu'ils ont parce qu'en fait, il y en a beaucoup qu'ils n'arrivent même pas à qualifier. En fait, ils sentent qu'il y a un problème, mais ils n'arrivent pas à trouver l'origine, comment l'info se propage. Et du coup, ils ne peuvent pas vraiment aller leur dire voilà ce qui se passe. C'est juste il y a une espèce de pifomètre journalistique sur le sujet. Mais même eux ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas tout publier parce que ça repose sur du vent. Quoi.
Du pifomètre journalistique. Quand c'est inventé, c'est pas que du pifomètre.
Ouais. Ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'ils ne ont justement retenu que les cas dont ils étaient sûrs, donc ils ont quand même des choses solides. Alors ils sont allés voir des trucs tout bêtes, hein, comme le WHOIS, c'est-à-dire voir qui a déposé le nom de domaine. Ils ont également regardé s'il y avait des bouts de code qu'on retrouvait sur plusieurs sites différents et qui étaient identiques. Ils ont même retrouvé certains sites d'information qui pouvaient être des sites en français, hein. Mais quand il y a des messages d'erreur, le message d'erreur était en russe. Il fait tâche.
On a le droit de se faire regarder en Russie, hein.
C'est ça. Ce qui est intéressant dans le mécanisme, c'est que notamment ils citent une sorte de site de quelqu'un qui est censé produire des articles et qui est très peu suivi. Et donc, ils posent cette question en disant « Mais quel est l'intérêt, si on veut faire de la désinformation, d'avoir un site avec aussi peu d'abonnés ?» Mais ils montraient que les articles étaient ensuite repris, repartagés par des réseaux sociaux et notamment sur un grand nombre de sites d'information alternatifs dans lesquels on trouve énormément de choses et donc notamment ce type d'article.
Ils profitent aussi, alors c'est pas dans l'article, mais c'est quelque chose qu'ils voient assez régulièrement, ils profitent aussi de la notoriété, par exemple, de journaux type Mediapart, qui ont une plateforme blog où n'importe qui peut publier dessus, et donc ils espèrent jouer sur l'amalgame entre un article officiel de Mediapart et un article qui vient du blog de Mediapart. Vous trouverez, si vous allez sur les blogs de Mediapart, vous allez trouver plein d'articles de théorie du complot sur la 4G, sur le Wi-Fi, sur les ondes, sur plein de choses. Et les gens profitent de cette notoriété-là pour faire leur pub et dire « Regardez, je l'ai vu dans Mediapart, si ça doit forcément être vrai. » Et en plus, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes à relayer ça, et c'est vrai que ça sert après de caisse de résonance à ces contenus qui n'auraient jamais percé s'ils n'avaient pas été sur ces sites un peu plus fréquentables.
Après, là, ça peut porter préjudice à Mediapart aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ça vient de Mediapart, donc ça vient de la rédaction », alors qu'au final, ce sont des blogs qui sont proposés justement aux abonnés de Mediapart pour qu'ils puissent publier. Le Monde le fait également. Par exemple, je suis beaucoup un journaliste qui est médecin aussi sur Réalité Biomédicale et il a son blog sur Le Monde. Donc quand il publie, ce n'est pas un article du Monde, c'est un article que lui-même a écrit.
Oui, je pense qu'il y a une différence entre effectivement inviter des gens à avoir des blogs chez toi mais que tu as sélectionné et faire un truc où n'importe qui peut ouvrir un blog et où tu te retrouves effectivement avec ce genre de choses. Alors, ce que je trouve important dans les descriptions qui sont données, c'est qu'il citait un cas, alors c'est pas sur cette étude-là, mais il citait une autre étude qui avait été faite, où une même entité de ce type-là de désinformation avait pu sortir 15 versions différentes autour du même fait, qui étaient toutes pas compatibles les unes avec les autres. Donc on n'est pas dans un système où on défend une version différente, on est bien dans un système où on va raconter n'importe quoi, se contredire, on n'est pas du tout dans la défense d'un point de vue.
Ce qui est original, hein, parce qu'effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une direction bien précise, une volonté bien précise, mais non, c'est plutôt que c'est une manière de saper la volonté d'une alternative, enfin peut-être de l'Occident en général. Il faut voir ça à un niveau qui est un peu plus complexe que juste un désir en particulier.
Ça perd aussi l'adversaire, puisque du coup, l'adversaire va se retrouver avec 15 versions d'un même sujet à aller débunker, ou en tout cas, aller essayer de contrer. Et du coup, comme il y a plein de détails qui changent à chaque fois, bah, il est obligé d'attaquer sur tous les fronts. Et on est complètement perdu, plutôt que d'essayer de casser une théorie du complot et de la démonter une fois pour toutes. On est en permanence sous la flotte et avec une inondation de choses à combattre. Du coup, ça laisse moins de temps pour son propre combat et ses propres idées. Et c'est vrai que ça peut être aussi une théorie qui marche assez bien et noyer l'ennemi sous déluge, ça peut être efficace.
C'est combien? C'est 10 heures pour redonner une bonne information sur une désinformation, c'est ça?
Pour 10 minutes à balancer quelque chose, c'est 10 heures de boulot derrière pour le contrer, quoi.
Ça marche pas toujours, hein, parce qu'il suffit de voir les théories sur le A5G, par exemple, qui pullulent et qui ont explosé avec l'épidémie de Covid. Et effectivement, ça paraît être imbloquable, ce truc. Ce genre de désinformation, une fois qu'elle est sortie, on ne peut plus la re-rentrer dans sa boîte de Pandore.
S'il y a beaucoup de personnes qui vont dire exactement la même chose, alors c'est que ça va être vrai. Ça paraît idiot, mais on est câblé comme ça. On va avoir tendance à croire la masse plutôt que celui à côté pour dire « Non, mais c'est des bêtises, faut
la
pas écouter. »
Ou la personne importante.
Ouais. Vous êtes au courant que Manu, tu des chatons quand même.
J'ai arrêté. J'ai arrêté. Officiellement, stop.
Alors, on sait que la Russie finance des partis politiques. Il y avait cette affaire un peu louche, notamment d'Alexandre Benalla, qui avait un contrat très juteux avec un oligarque russe. En fait, il s'est retrouvé coincé, c'est que sa conversation privée a été enregistrée. Et à ma connaissance, on ne sait toujours pas comment.
Les hommes politiques derrière le Brexit avaient des liens plus ou moins directs avec la Russie aussi.
Les Trump également. Au point de vue géopolitique, manifestement, les Russes sont les spécialistes de ça. Alors après ça, il y a une contestation qu'on pourrait faire, c'est de dire, mais regardez les grands médias français, ils appartiennent massivement à quelques intérêts privés, essentiellement des grosses boîtes françaises, des quelques milliardaires. Il n'y a pas d'information qui soit neutre, au final.
Quand tu t'intéresses à l'histoire du journalisme, au départ, c'était l'État qui gérait ça, après, ça a été dispatché plutôt des bourgeois, et même s'il était dans un journal un peu indépendant, il y a toujours quelqu'un qui a le porte-monnaie.
Et on voit aujourd'hui que les sites de presse ont toujours du mal, enfin en tout cas ceux indépendants ont du mal à survivre, alors que les gros médias contrôlés par deux, trois têtes en France se gavent de subventions ou d'aides parce qu'ils ont aussi les bons lobbies et les bonnes entrées auprès des politiques. Et forcément qu'aujourd'hui les médias entre guillemets mainstream en France sont très très orientés. Et aujourd'hui vous en trouverez quasiment pas un à aller taper sur la politique de Macron ou autre. Et il faut aller vers des journaux indépendants, type Mediapart, pour faire le boulot. Et on l'a vu par exemple sur l'IGPN, il n'y a que Mediapart quasiment sur le créneau. Vous allez dans le Figaro, l'Express ou le Canard Enchaîné qui est peut-être un peu à côté. Tout le monde se nourrit de la soupe de Macron.
Et Next Impact pour l'informatique.
Il y a quelques sites qui se sont regroupés, qui essaient justement de ne pas être juste vendus à des intérêts privés, mais qui sont financés par leurs utilisateurs. Luc, Nicolas, vous êtes abonné à ce genre de site, non, justement?
C'est la presse libre dont Next Impact est membre, hein, et on retrouve dedans d'autres choses qu'on connaît bien, comme Arrêt sur Image, par exemple. Il y a, je crois, un journal qui s'appelle Les Jours, que je ne connais pas plus que ça, mais il y en a toute une série, et qui ont une charte derrière pour s'assurer qu'ils sont réellement indépendants.
C'est quoi le site web pour aller se connecter dessus?
Presse.fr.
Bon, par rapport à ces questions-là, la différence pour moi, elle est quand même que dans l'exemple de l'article, on est sur la désinformation, c'est-à-dire avec nos 15 versions différentes d'un même fait. Et même si rien n'est parfait, c'est quand même important de savoir qui parle pour au moins pouvoir remettre une information dans le contexte. Or, avec Internet, c'est moins évident parce qu'on peut faire plein de sites dans tous les sens. On peut avoir de multiples sources d'informations. Et si on veut éviter de se faire un peu promener, il faut au moins essayer de pouvoir avoir en tête qui parle, quels sont ses intérêts, est-ce que ces gens se contredisent, et est-ce que les faits qu'ils rapportent sont vérifiables par d'autres personnes, pour au moins éviter de se faire trop promener.
Du coup, vous pouvez aller sur lapresselibre.fr, et aujourd'hui, il y a 6 médias qui sont regroupés derrière ça, et Mediapart risque d'arriver justement le 7e qui va arriver bientôt.
Sur ce, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.